Bonjour Bernard Accoyer.
Bonjour.
Emmanuel Macron a livré ce mardi à la Sorbonne sa vision de l'Europe et de la presse française. Salut ce matin. Son audace, est-ce que vous, en tant que gaulliste, vous vous reconnaissez dans ce qu'a dit le président de la République ?
C'est un long discours dans lequel il y a des perspectives sur les grands sujets européens. Mais on sait qu'en matière d'Europe, comme en tout domaine, il y a souvent extrêmement loin entre les paroles et les actes. Et on sait que dans les propositions qui sont faites par Emmanuel Macron, certaines d'entre elles, à coup sûr, hélas, ou en tout cas à coup sûr, ne rentreront pas dans les faits. On peut aussi noter qu'au passage, il invente 4 nouvelles taxes, ce qui est, c'est vrai, un marqueur de gauche, parce que c'est un président social-démocrate.
Vous voulez dire au passage que Emmanuel Macron fait des propositions irréalistes dans ce discours?
Bon, ce sont des propositions qui s'inscrivent dans une perspective d'aller plus loin dans une Europe fédérale. Mais nous sommes, nous, aux Républicains.
Est-ce que ça vous satisfait, d'aller plus loin vers une Europe fédérale?
Nous sommes là au cœur du problème.
Oui.
L'Europe, depuis un certain nombre d'années, fait peur au peuple européen. On l'a vu dans les votes, on l'a vu dans la montée des votes extrêmes, on l'a vu dans le Brexit. Et il me semble que dans ce discours, il n'y a pas beaucoup d'éléments pour rassurer ceux qui ont peur de l'Europe et qui attendent de l'Europe que ce soit un puissant facteur d'emploi, de sécurisation, de protection contre l'immigration, contre les délocalisations, contre l'appauvrissement.
Et est-ce que, en parlant d'Europe, en faisant une série de propositions, en se montrant volontaire, Emmanuel Macron peut reprendre les commandes de l'Europe, être l'un des patrons et
Emmanuel Macron fait, en général, en tout cas c'est ce qui s'est passé depuis qu'il a été élu président, de belles images et des discours qui peuvent susciter...
Vous voulez dire le discours était joli, vous pointiez le fait que la plupart des propositions vous semblaient irréalistes, inapplicables, donc ça va s'arrêter là d'après vous?
Je ne l'espère pas, oui. Mais l'expérience montre que si on ne sécurise pas d'abord et si l'on n'appelle pas les peuples à trouver dans l'Europe une espérance, une garantie, je vois mal comment les moyens des différents pays européens pourraient permettre à leurs autorités, les moyens politiques et à leurs autorités d'aller vers les objectifs qui sont dans le discours d'Emmanuel Macron, qui est effectivement un long discours avec des perspectives dont on peut, et d'ailleurs chacun le reconnaît, penser qu'il y aura loin des paroles aux actes.
Bernard Accoyer, un mot du budget français cette fois. Hein. On va connaître ce matin le détail du projet de loi de finances du gouvernement. C'est donc le budget 2018. Première indication révélée hier soir, les baisses d'impôts seront moins fortes que prévues. On parle désormais de 7 milliards d'euros de baisse, non plus de 10 milliards. Est-ce que vous le regrettez ?
Évidemment. Il y a eu des engagements de baisse d'impôts. Les engagements ne sont pas tenus. Il y avait eu également des engagements sur les déficits. Il y aura un déficit qui avoisinera les 80 milliards d'euros. Il n'y aura pas de hausse de pouvoir d'achat comme cela avait été annoncé.
Par contre,
oui. Il y aura une hausse de la CSG pour tous les Français, laquelle ne sera pas compensée du tout pour la majorité d'entre eux et compensée pour moitié d'abord pour les salariés du privé et eux seuls.
Vous dites que ce budget est raté, que la copie est mauvaise?
Je ne dis pas qu'il est raté, je dis qu'il n'est pas conforme aux engagements qui avaient été pris par le candidat Emmanuel Macron.
Donc il y a eu tromperie?
C'est en tout cas un mauvais signe.
Est-ce que votre camp serait capable de faire mieux dans la situation budgétaire que connaît la France aujourd'hui?
D'abord, nous ne sommes pas, malheureusement,
en responsabilité. Aux affaires.
Ensuite, ouais. Les choix qui ont été faits par Emmanuel Macron sont clairement, il l'assume d'ailleurs, un choix qui est celui d'augmenter la CSG, c'est-à-dire la taxation de tous les Français, y compris ceux qui ne peuvent pas soit travailler plus, soit bénéficier d'une baisse...
Avec la suppression de la taxe d'habitation pour une partie de la population.
Une baisse de cotisation. Quant à la suppression de la taxe d'habitation... croyez-vous que les collectivités vont pouvoir vivre comme ça, de l'air du temps?
Il fait des cadeaux avec l'argent des autres.
Que va-t-il se passer? Eh bien, évidemment, les impôts locaux vont augmenter. Et ça, on ne le dit pas aux Français. Donc, en réalité, c'est un transfert de prélèvements fiscaux depuis l'État vers les collectivités locales, et en particulier en direction des familles moyennes, parce que les seuils qui ont été choisis pour l'exonération de la taxe d'habitation sont des seuils, quand on les regarde de près, qui concernent beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français.
Bernard
Et surtout qui concernent les Français qui payent tout.
On parle des Républicains ?
Avec plaisir.
Avec plaisir. Parce que votre parti est en pleine campagne électorale, on va dire, campagne pour la présidence du parti. Le président sera désigné lors du congrès des 10 et 17 décembre. Vous en êtes à combien de candidats aujourd'hui? J'ai un peu du mal à m'y retrouver.
D'abord, nous en sommes au candidat à la candidature.
D'accord.
Parce qu'il y a une procédure de parrainage qui est en cours de recueil. Mais je voudrais dire surtout que cette échéance est importante parce que nous avons failli disparaître. C'était d'ailleurs le plan d'Emmanuel Macron lui-même qui avait dit on va supprimer, on va tuer les vieux partis de droite et de gauche.
En aspirant une partie des Républicains.
Sur ce pronostic, d'abord qui est dangereux parce que si vous supprimez les partis républicains de droite et de gauche et qu'on fait une sorte d'amalgame au milieu, eh bien vous laissez la voie libre à la première alternance aux extrêmes. On voit d'ailleurs ce qui se passe lorsqu'il y a des gouvernements de droite et de gauche tels que la coalition en Allemagne et les de l'extrême droite. Donc c'était une construction dangereuse en elle-même. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas morts, comme certains le voulaient, et nous avons survécu à des défaites qui sont des défaites historiques, et c'est pourquoi j'ai voulu lancer un travail approfondi de réflexion pour comprendre pourquoi nous avons échoué de cette façon.
C'est ce que vous appelez les ateliers de la refondation. Hein.
Oui, tout à fait. Pas uniquement ces dernières défaites, mais au fil du temps, comment notre influence a perdu en force. Et ce travail est particulièrement intense avec les militants, bien sûr, mais avec des experts, avec nos fédérations. Et ce travail sera la base de la campagne dont vous me parlez, c'est-à-dire la campagne pour élire la nouvelle présidence des Républicains.
Vous constatez quand même la division de votre parti. On a l'impression que des clans se forment, des courants se créent. On a l'impression de revoir le Parti Socialiste des années 90.
Non, je ne partage pas, évidemment, votre analyse. D'abord, je note que dans les questionnaires que nous avons envoyés à nos militants, près de 80% veulent qu'il y ait plusieurs sensibilités qui puissent s'exprimer.
Ah ben là, ils sont servis. Ils sont servis. Parce qu'entre Valérie Pécresse, qui crée son mouvement à part, sans se présenter à la présidence, Christian Estrosi aussi, les dissidents qui sont passés chez Macron, puis tous les candidats qui se présentent avec forcément des étiquettes et des opinions différentes, ça fait quand même un joli panel de diversité.
D'abord, cette diversité est une richesse. Nous sommes un parti ouvert et nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous sommes un parti de la droite et du centre. Il est tout à fait normal qu'il y ait des nuances entre nous. Ensuite,
des nuances un peu plus que ça. Vous avez entendu Valérie Pécresse dire qu'elle n'excluait pas de quitter les Républicains si Laurent Wauquiez l'emportait.
Ça, c'était assez ancien. Elle ne l'a pas.
C'était il y a trois semaines.
Elle ne l'a pas redit depuis. Oui. Je suis allé à la réunion qu'elle avait organisée pour créer son
mouvement.
Mais il y a un débat. Mais dans quelle formation politique véritablement démocratique il n'y a pas un débat? Si chacun n'essaye pas de montrer sa particularité, ça veut dire qu'il n'a pas d'ambition politique. La vie politique, c'est quand même d'avoir une ambition, d'essayer de faire prévaloir ses idées, ses convictions, en occupant une place de responsabilité. C'est la richesse d'un parti politique.
Et est-ce que Laurent Wauquiez est élu
après, il appartiendra à celui ou à celle qui sera élu de savoir rassembler au sein de notre famille politique. C'est un défi qui sera de première importance.
Et est-ce que Laurent Wauquiez a le bon profil pour rassembler alors qu'on entend qu'il divise plutôt aujourd'hui?
Je n'ai pas apporté tel ou tel jugement.
Vous ne vous engagerez pour aucun candidat.
Je ne soutiendrai aucun candidat parce que je suis secrétaire général et que, aux côtés de la haute autorité,
vous organisez l'élection.
J'ai la mission de veiller à ce que cela se passe de façon irréprochable. Je pense que la qualité première d'un responsable politique, c'est de savoir rassembler. Mais je n'ai pas de préjugé sur une telle ou un tel en disant celui-là, il ne saura pas, ou celle-là, elle ne saura pas rassembler.
Merci Bernard Accoyer d'être venu ce matin sur RFI.